Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, et te prier, Seigneur, d'ouvrir en même temps nos esprits, nos cœurs, pour que nous puissions recevoir de toi l'enseignement. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Que dans la paix, dans la tranquillité, nous puissions manger ta parole, Seigneur, la goûter, la comprendre, et que tu puisses, Seigneur, agir d'une façon mystérieuse en nous pour nous faire grandir. Seigneur, je compte sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, je prie ton nom pour que tu puisses mettre ton esprit sur chacun. Et que, Seigneur, tu puisses prendre possession de cette salle complètement, en ton nom. Seigneur, nous voulons proclamer la victoire dans cette salle, et la paix et la tranquillité. Que ton saint nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Je voudrais aujourd'hui vous parler du Père éternel. Parce que c'est un sujet qui est très très rarement abordé. Bien sûr, on parle du Père, et on dit le Père c'est ceci, le Père c'est cela, et on ramène souvent à un Père humain. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on prie, on va dire « Seigneur, je te demande ceci ou cela ». Quelquefois on va prier Jésus, quelquefois on va prier Yeshua, quelquefois il y en a qui prient le Saint-Esprit, mais je vous dirai tout à l'heure, ça ne sert à rien. Mais on sait finalement à qui on s'adresse. À qui on s'adresse. Et j'aimerais vous emmener faire une promenade dans le Tanakh. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tanakh ? Eh bien, c'est ce que nous appelons, les chrétiens appellent ça l'Ancien Testament. Pourquoi on dit Tanakh ? Eh bien, parce que c'est trois parties, la Torah, les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, et les Keturim, les écrits. Donc, si vous prenez ces trois lettres et si vous ajoutez des voyelles, ça forme le mot Tanakh. D'accord ? Donc, les Juifs appellent ça le Tanakh. On a vécu quelque chose de très beau en Israël. Je le dis comme ça en passant. Mais vous savez que l'armée de défense d'Israël, Tsahal, est une armée unique au monde. Parce que on était au mur, au Kotel. Il y avait des centaines de parachutistes qui étaient là, et ils avaient fait 3 mois de formation, et au bout de 3 mois, il y a une cérémonie où ils vont faire une promesse devant le mur et devant leurs parents, et chacun va recevoir un Tanakh à son nom. Et si ce sont des musulmans, ils reçoivent le Coran à leur nom. Et si ce sont des chrétiens, ils reçoivent les évangiles à leur nom. Est-ce que vous croyez qu'il y a une deuxième armée comme ça dans le monde ? Elle est unique. Et j'ai vu tous ces tanars qui étaient là, qui étaient prêts, et tous ces soldats qui étaient prêts à recevoir le soir, chacun leur tanar. Ils lisent le tanar en allant au combat. J'ai jamais vu ça. Alors nous, on va se promener dans le Tanakh aujourd'hui. J'espère que vous avez du temps. Je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps parce que je crois que c'est un sujet extrêmement important. Moi-même, j'ai découvert ce sujet il n'y a pas très longtemps, je dois vous le dire. Ça m'a tellement passionné que j'ai dit, il faut absolument que je le fasse. Vous savez que le peuple juif appelle Dieu Hachem. A, c'est l'article. Et Shem, c'est nom. Donc c'est le nom. Le nom. Hein. Donc Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas prononcer le nom de Dieu. Et comme Michel l'a rappelé hier, quand on prononce le nom de quelqu'un, on prend autorité sur lui. Donc on ne prend pas autorité sur Dieu. Personne n'a le droit. Donc, néanmoins, je voudrais vous dire une chose qui est importante, c'est que, vous voyez par exemple Moïse, Moshé, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il parlait avec Dieu face à face. Mais vous savez que on ne parle jamais dans le Tanakh de la face de Dieu. On n'en parle jamais. Pourquoi ? Ben parce que ce sont les faces de Dieu. C'est toujours au pluriel. Le mot c'est panim, c'est du pluriel. Autrement dit, Dieu a plusieurs facettes, et de temps en temps, il nous montre une de ces facettes dans nos vies. Donc, on n'est pas, je ne parle pas face à face avec Dieu, ce sont des faces de Dieu. Et de même que c'est le pluriel aussi pour les humains. Nous avons chacun, vous et moi, plusieurs facettes, mais évidemment. On est quand même des personnalités complexes. Hein, sinon, on serait monolithique là comme ça. Non, pas du tout. Et donc, pour connaître une personne, ça prend beaucoup de temps. Hein, quand on veut vraiment connaître quelqu'un, il faut des années et des années. Dans un couple, on apprend à se connaître au fil des années. On découvre des petites choses nouvelles, même après 50 ans de mariage. Alors, les Juifs, eux, ils ont trouvé 70 noms de Dieu. C'est beaucoup, hein? C'est un chiffre symbolique. Enfin, moi, j'ai ici, sur un document, j'ai 18 noms de Dieu. Ça, c'est la façon chrétienne de chercher. Mais les Juifs, ils creusent encore beaucoup plus et ils en trouvent plus. Bon, maintenant, parmi les noms de Dieu, il y en a deux qui sont absolument importants. Et si vous voulez, on va se concentrer sur ces deux noms-là. Le premier, c'est Elohim. Et le second, c'est le tétragramme. Le tétragramme, c'est Yod, He, Vav, He. Je pourrais le dessiner d'ailleurs. Mais je suis plein de fils, là. Alors, attendez, on va faire comme ça. Oui, dessine Yod et Vav, He. Là.
Les broches lient de droite à gauche.
Les broches lient de droite à gauche,
évidemment. Hein. He, c'est le souffle.
Vav.
Vav, c'est comme un yod qui descendrait jusque-là.
Jusqu'en bas.
Et He.
Voilà. Et normalement, on ne met pas de voyelle. Vous savez que le Tanakh d'origine, c'est... Je vais vous dire comment c'est le Tanakh d'origine. Ce sont toutes des consonnes collées les unes derrière les autres, sans espace et sans voyelle. C'est comme si vous écriviez maman sans Léa. Vous voyez ? Donc essayez de prononcer. Hein. Et ici, donc, vous avez la première lettre en haut à droite, c'est le yod, ça veut dire la main. Et c'est la main de Dieu. La deuxième lettre, c'est le « hé ». Et vous voyez qu'il y a un petit trou. Et c'est le « hé », ça veut dire le souffle. C'est le souffle de l'esprit. La troisième lettre, c'est le « vav ». Le « vav », c'est un clou. Mais remarquez que c'est comme un yod, mais qui descend par terre. Il représente Yeshua. le clou, celui qui a été cloué, qui est descendu sur terre pour être cloué. Et le hé, le dernier hé, c'est le hé qu'il nous envoie. Ce nom imprononçable, on a pu lui mettre des voyelles, comme ça, et ça a donné Yahvé ou Yehovah. Mais moi, je ne le prononce jamais comme ça. Je dis Yod, He, Vav, He. D'accord ? Alors maintenant, dans nos Bibles, c'est traduit comment ? Ben, c'est traduit par l'Éternel. D'accord ? Donc, dans vos Bibles en français, quand il est marqué l'Éternel, c'est Yod et Vav. D'accord ? Quand il est marqué Elohim, c'est traduit par Dieu. C'est la même personne. Hein? Attention, je ne vais pas commencer à découper Dieu en morceaux. Mais je voudrais vous montrer deux facettes extraordinairement importantes pour comprendre qui est le Père Céleste. Ça va? C'est clair? Si je ne suis pas clair, vous levez le doigt, je recommence. Ça va? On a le droit de ne pas comprendre, on a le droit de recommencer. Alors, le nom d'Elohim, on va commencer par Elohim. Elohim a plusieurs sens. Elohim, c'est à la fois le créateur, le juge, et il y avait en Israël des juges, et Dieu les appelait, on le voit dans un psaume, hein, c'est dans le psaume 82, dans le psaume 82, quand Dieu parle des juges d'Israël, il les appelle des Elohim. Maintenant, toutes les idoles du monde sont des Elohim. D'accord ? Toutes les idoles qu'on peut trouver dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, y compris des idoles invisibles, comme Mammon, sont des Elohim. Ça va ?
Oui.
Donc, trois choses. Hein. Elohim, c'est le créateur et le juge. C'est les juges d'Israël. Et c'est toutes les idoles. Voilà. Ça, c'est ce que recouvre le mot Elohim. Maintenant, le mot Yod et Vavé. Eh bien, ce mot est construit sur le verbe être. Le verbe être, c'est ya'a. Aya, pardon. Aya, le verbe être. Et avec ce mot, on peut. C'est un des mots les plus difficiles à traduire de la Bible. Parce que, en fait, c'est le verbe être qui est conjugué de trois manières différentes en même temps. Parce que si vous dites ya, avec les deux premières lettres, ça veut dire « il est ». Si vous dites « aya », ça veut dire « il a été ». Et si vous dites « yehi », ça veut dire « il sera ». Donc vous voyez que dans ce mot, ça recouvre tout. C'est trois conjugaisons en même temps. C'est très compliqué à traduire. Bon, ça c'est juste pour introduire, hein. Mais vous allez voir que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Alors, pourquoi s'intéresser au nom de Dieu ? Eh bien, si vous prenez le psaume 91, qui est un psaume que vous connaissez certainement tous, vous savez, c'est ce psaume qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous connaissez ce psaume ? Eh bien, il y a un verset, qui est le verset 14, qui dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Ah. Et puis, je vous rappelle aussi ce verset qui dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. » Hein? Donc, il faut absolument connaître le nom de Dieu et comprendre ce qui est caché derrière. Comprendre aussi qu'est-ce qu'est venu faire Satan avec ce nom. Alors, vous allez souvent regarder, si dans vos traductions, je rappelle, hein, Elohim est traduit par Dieu, et Yod et Vavé traduit par l'Éternel. Et vous allez trouver de temps en temps Dieu tout seul, et de temps en temps l'Éternel tout seul, et de temps en temps les deux groupés. L'Éternel Dieu. Bon. Alors, qui est le Créateur? Si vous prenez le premier chapitre de la Bible, eh bien, vous découvrez que c'est toujours Elohim qui est cité. Toujours. On ne voit pas apparaître Yod et Vavé. Toujours. Il est le Créateur. Et je vous cite le premier verset. Bereshit bara Elohim Hashamaim ve Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en premier, la vraie traduction c'est dans un commencement. Ça veut dire qu'il peut y avoir eu des commencements avant. C'est pas la bonne traduction, c'est pas au commencement, hein. C'est dans un commencement. Elohim a créé. Bara Elohim. Le verbe bara est réservé à Dieu. C'est-à-dire que c'est un verbe qui veut dire créer à partir de rien, ou plutôt à partir de lui-même, et c'est réservé à Dieu. Et si vous prenez le psaume 51, c'est le psaume de la repentance de David, c'est formidable ce psaume, il dit « Crée en moi un cœur pur » et il utilise « bara ». Ça veut dire « Crée à partir de toi un cœur pur pour moi ». C'est-à-dire que quand il fait ça, il met une partie de lui-même en moi. Vous comprenez ça? Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, Elohim crée pendant 6 jours, il crée. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans Genèse 2:3, Elohim bénit le 7e jour. Il le consacre et il se met au Shabbat. D'accord? Mais vous savez que le fait de bénir, c'est un acte juridique dans les cieux. Tout est juridique dans les cieux. Bénir, maudire, tout est juridique. Et on voit apparaître le juge. Elohim, c'est le juge. Et le créateur est le juge. Et vous savez que pour créer, il parle. D'ailleurs, le mot qui désigne la parole et le mot qui désigne des objets, c'est le même. Donc, quand Elohim parle, il crée. Quand Elohim prononce une bénédiction, il crée la bénédiction. Et il bénit le 7e jour. Et c'est Elohim qui fait ça. C'est pas Yod et Vavé. J'essaye de vous faire comprendre des choses, hein. Donc, on arrive au chapitre 2 des Écritures. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on arrive au chapitre où on va créer l'homme. Et qui donc va créer l'homme? Eh bien, c'est Yod et Vavé Elohim, les deux ensemble. Tiens. Et pourquoi? Eh bien, parce que Yod et Vavé, c'est l'attribut du Chesed du Chesed. Et le Chesed, c'est quoi en hébreu? C'est la bonté, l'amour. L'amour pur. Donc, j'essaye de vous faire comprendre que dans le nom de Dieu, il y a deux parties essentielles. il y a le juge créateur et il y a la bonté et l'amour. Yod et Vavé, c'est l'attribut d'amour. Très important à comprendre ça. Alors, qu'est-ce que je lis ? Genèse 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Yod et Vavé Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a donc dans la création de l'homme un acte d'amour. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis Yod et Vavé Elohim planta un jardin en Éden. C'est encore un acte d'amour. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Yod et Vavé Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, etc. Donc vous voyez que c'est les deux ensemble qui font ça. Et puis, on voit, si vous allez un petit peu plus loin, on voit que c'est Yod et Vavé Elohim qui dit à l'homme, oui, mais tu sais, de cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. C'est donc un acte d'amour de lui dire, tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance. D'accord ? Bon. Qui cherche une compagne pour Adam ? C'est Yod et Vavé Elohim. C'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une compagne. Et donc, c'est encore un acte d'amour, vous voyez ? Je ne veux pas dire que la création du premier chapitre n'est pas un acte d'amour, mais on voit le recette de Dieu qui est là. Alors, je vais vous parler de Yod et Vavé tout seul. C'est l'attribut de bonté, l'attribut d'amour, le chesed. On dit qu'Abraham était l'homme du chesed, de l'amour. Alors, Yod et Vavé, quand vous regardez bien dans la Bible, eh bien vous vous rendez compte que c'est lui qui regarde les hommes et qui ressent ce que les hommes sont en train de faire. C'est lui qui ressent. C'est lui qui sent ce qui se passe, et c'est avec lui, c'est avec cet attribut-là que nous pouvons entrer en intimité avec le Père. Par exemple, c'est Caïn et Abel, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Regardez, Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à Yod et Vavé une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit un des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. Yod et Vavé porta un regard favorable sur Abel. Vous voyez, c'est lui qui dit, ah ben oui, ça c'est bien. Il sent que c'est bien. Il sent que ce qui monte de là, c'est bon. Plus tard, dans l'histoire de la Bible, on voit que Dieu, enfin ce que nous appelons Dieu, Yod et Vavé, va s'approcher d'Abraham. Je vois dans Genèse 18, 17, alors Yod et Vavé dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez l'intimité là? C'est pas Elohim, c'est Yod et Vavé. Yod et Vavé, c'est celui qui va se rendre à Sodome, qui va discuter avec Abraham. Vous vous rappelez, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas, etc., etc. Et on voit dans Genèse 18, 26, et Yod et Vavé dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Vous vous rendez compte? Ça, c'est Yod et Vavé. C'est Yod et Vavet qui, entre Elohim et Yod et Vavet, attention, c'est pas deux personnages, hein. C'est le même, hein. C'est deux facettes. Mais en dernier recours, c'est Yod et Vavet qui tranche et qui décide. D'accord ? Alors, par exemple, vous vous rappelez que Abraham, sa femme Sarah, avait été capturée par Abimélech, le roi des Philistins. Et Abimélech n'a pas osé toucher à Sarah. Mais il a eu un drame. Parce que comme il avait capturé Sarah, eh bien, ses propres femmes ne pouvaient pas enfanter. Elles étaient stériles. Et c'était l'Éternel qui avait décidé ça. Et qu'est-ce qu'on lit dans Genèse 20 jusqu'à 22? Je vais juste lire un petit passage. Abraham pria Elohim. Pourquoi il prie Elohim? Ben parce que Elohim, c'est celui qui a la puissance. Vous voyez? Il a créé. Il pria Elohim. Et Elohim guérit Abimélech, sa femme et ses servantes. Vous voyez ce qui se passe? C'est que Abraham, il va prier pour Abimélech, son ennemi, les femmes de son ennemi, pour qu'elles soient guéries. Il prie Elohim. Et elles purent enfanter. Car Yod et Vavet avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Yod et Vavet se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et Yod et Vavet accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham. Vous voyez le miracle là? Et voyez la répartition des tâches entre Elohim et Yod et Vavet. Alors on va continuer. C'est Yod et Vavet qui fait réussir ou perdre ou rater un projet. Quand on a un projet, c'est Yod et Vavet qui va nous faire soit réussir, soit rater. On le voit par exemple, vous savez que Abraham avait un serviteur, s'appelait Eliezer, et qu'il l'a envoyé chercher une épouse pour son fils. C'était un projet. Eh bien, on lit dans Genèse 24, verset 21, l'homme Eliezer l'a regardé, il regardait Rebecca, avec étonnement, sans rien dire, pour voir si Yod et Vavet faisait réussir son voyage ou non. Qui est-ce qui a vu que, vous savez que Jacob avait quatre femmes. Il avait deux femmes officielles et puis deux servantes. D'accord? Et Jacob n'aimait pas Léa. C'est pourtant celle qui a donné six garçons et une fille. Mais pourquoi il a eu six garçons et une fille avec Léa? Eh bien parce que, Genèse 29, 31, Yod et Vavet vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Vous voyez ce que c'est le Chesed? Le Chesed, c'est ça. Il voit ce qui se passe chez les hommes, et il décide de quelque chose. Ça, c'est Yod et Vavet. Quand Judas, le fils de Jacob, Judas, il avait un fils qui s'appelait Onan. Et Onan ne voulait pas avoir d'enfant. Donc sa semence, il la mettait par terre. Ça ne plaisait pas à Yod et Vavet. Ça n'a pas plu à Yod et Vavet. Et il nous est dit, ce qu'il faisait déplut à Yod et Vavet, qui le fit aussi mourir. Vous voyez ? Donc il regarde ce que nous faisons. Donc le cœur de ce que nous, cette personne que nous appelons Dieu, le Père si vous voulez, le cœur, son cœur, c'est Yod et Vavé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est très important à comprendre, hein, cette affaire-là. Et celui que nous appelons l'Éternel, Yod et Vavé, c'est un Père tout-puissant, qui ressent ce que nous vivons. Il ressent les choses, il ressent notre cœur. Il a cette capacité de comprendre et d'apprécier ce que nous vivons. Il nous observe. C'est pourquoi, par exemple, dans Exode 14, 4, eh bien, il est dit « Yod et Vavé combattra pour vous. » Et vous, gardez le silence. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, vous vous rappelez de tout ça? Eh bien, qu'est-ce qui était dans la colonne? Exode 14, 24. À la veille du matin, Yod et Vavé de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. C'est Yod et Vavé. Vous voyez ? Amalek, vous connaissez Amalek, l'ennemi juré. Eh bien, Amalek, il se bat contre qui ? Exode 17, verset 16. « Et Yod et Vavé dit, parce que la main a été levée sur le trône de Yod et Vavé, il y aura guerre de Yod et Vavé contre Amalek de génération en génération. » Vous voyez que la guerre, c'est bien contre la tribu du Chesed, de l'amour. Maintenant, je vais vous parler d'Élohim, parce qu'il faut bien comprendre les deux. Élohim, c'est un juge, un créateur et un juge. C'est lui qui prend les décrets dans le ciel, si vous voulez. Il prononce des décrets. Et il y avait un décret à un moment donné, par exemple, concernant Abraham, la dixième épreuve d'Abraham. Vous savez qu'il a eu 10 épreuves. La dixième, c'était la plus dure. Elohim prononce le décret. Je vous le lis. Genèse 22, 2. Elohim dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est un décret prononcé par Elohim. C'est dur. Vous comprenez ? Et on continue dans cette histoire. Dans Genèse 22, 12, l'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Elohim. Pourquoi on craint Elohim ? Eh bien, parce que c'est un juge. Si vous êtes convoqué devant un juge, parce que vous avez fait quelque chose, je ne sais pas quoi, eh bien, vous avez les boules, comme on dit. On a la trouille. Et là, il y a un test qui est fait sur Abraham, et il dit: maintenant, je sais que tu crains Elohim. D'accord ? Vous voyez la différence ? Tant si vous prenez ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles, Exode 20 au verset 7. Tu ne prendras point le nom de Yod et Vavé, ton Elohim, en vain, ton juge. Tu ne prendras pas le nom de ton juge en vain, tu ne te moqueras pas de lui, attention. Vous comprenez? Car Yod et Vavé ne laisserait pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Un autre passage, vous savez qu'en Israël, on respecte les vieilles personnes. Dans Lévitique 19, au verset 32, il est écrit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Elohim. Je suis Yod et Vavé. » Vous voyez ? La crainte du juge. Alors, c'est Elohim qui va prononcer dans les cieux des bénédictions, des malédictions, tout ce qui doit être prononcé dans un gouvernement, parce que c'est un gouvernement, et les décrets doivent être prononcés. Et par exemple, il a décidé, dans Genèse 25, verset 11, après la mort d'Abraham, Elohim bénit Isaac. Il a prononcé un décret, la bénédiction sur Isaac. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, vous savez que la terre avait été maudite à l'époque d'Adam. Et ici, il bénit Isaac. Isaac a été agriculteur. C'était pas un berger. C'était un agriculteur. Ça veut dire que Isaac a été le contraire de ce que Adam a fait. Adam a entraîné la malédiction de la terre, Isaac a entraîné la bénédiction de la terre. Et on voit que dans Genèse 27 au verset 28, que Elohim te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Mais c'est normal, Elohim c'est le créateur. Donc il va donner la rosée. Vous voyez? Ou alors il va faire descendre la foudre. Ça dépend des décrets. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, elle a proposé d'avoir un enfant avec sa servante. Et puis, après, elle dit dans Genèse 30 au verset 6, Rachel dit, Elohim m'a rendu justice. Il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appela du nom de Dan. Dan, ça veut dire juge, en plus. Hein? Donc vous voyez que c'est Elohim là qui rend justice. Quand Jéthro est venu rendre visite à Moshé dans le désert, vous rappelez? Et Moshé, il s'en sortait plus. Il s'en sortait plus tellement il y avait de problèmes à résoudre, etc. Qu'est-ce que dit Jéthro? Il lui dit de nommer des 70 anciens, etc. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, il dit dans Exode 18 au verset 23, si tu fais cela et que Elohim te donne des ordres, tiens bon, c'est Elohim qui donne des ordres. Mais oui, ce sont des décrets. Tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Quand Moshe est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir les paroles, les 10 paroles, qui c'est qui a prononcé les 10 paroles? Nombre 23, verset 19, Exode 20, verset 1 et 2, alors Elohim prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yod et Vavé, ton Elohim, ton juge, celui qui prononce les décrets. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude? Vous voyez les deux fonctions dans son nom. Et les paroles d'Elohim sont des paroles officielles. Ce sont des paroles officielles. Et donc, comme elles sortent du royaume céleste, elles ne peuvent pas contenir d'erreur. C'est pas possible. Et donc, il est écrit dans Nombre 23, 19, « Elohim n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Vous voyez, c'est Elohim. Elohim, c'est... Je vais vous donner sa vraie définition. Il est bien sûr le créateur, mais il est le garde des sceaux. C'est le garde des sceaux célestes. Voilà. Et ce garde des sceaux, nous devons avoir du respect pour lui, de la crainte pour lui. Attention, quand un décret est donné dans le ciel, c'est donné et ça descend. Il faut faire très attention. Et moi, je regrette que dans le monde spirituel, dans le monde des églises où on vit maintenant, il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Mais attendez, c'est sérieux, Dieu. Il y a quelque chose d'absolument sérieux là-dedans. Alors, c'est le garde des sceaux. Et pourquoi je dis que c'est le garde des sceaux? Eh bien, regardez, dans Deutéronome 7, 9. « Sache donc que c'est Yod-Hé-Vav-Hé, ton Elohim, qui est Elohim. Cet Elohim garde, fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » C'est-à-dire que c'est Elohim qui garde les alliances. C'est le garde des sceaux. C'est clair. Alors, maintenant, après avoir essayé, j'espère que j'ai été clair, pour vous définir Yod-Hé-Vav-Hé et Elohim, les deux. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je vous rappelle que c'est Yod-Hé-Vav-Hé Elohim qui avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Arrive le serpent. Ce serpent, c'est Satan évidemment, c'est un être spirituel créé par l'Éternel, créé par Elohim. Hein. C'est un fils d'Elohim. Il faut qu'on se rende compte de ça. Il a mal tourné, d'accord, mais c'est un fils d'Elohim. Il connaît bien le Créateur. Il connaît. Il connaît Yod-Hé-Vav-Hé. Il connaît le Chesed. Et c'est pourquoi, lorsqu'il vient parler d'abord à la femme, eh bien, il dit ceci. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Qu'Elohim Yod-Hé-Vav-Hé avait fait. Il dit à la femme, Elohim a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous remarquez une chose? Il fait tomber Yod-Hé-Vav-Hé. Il n'y a plus qu'Elohim. Il coupe le nom de Dieu en deux. C'est-à-dire qu'il fait tomber le chesed de Dieu, l'amour. Et il dit, est-ce que le juge a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas des arbres de l'arbre de la connaissance ?» Et ça, en faisant ça, il place la conversation uniquement sous l'aspect d'un Dieu juge. Vous comprenez? Mais un Dieu juge, on en a peur. C'est logique. Surtout qu'on vient de faire une bêtise, là. Donc, on en a peur. Et il ne fait aucune mention de la bonté de Dieu. Rien. Il le fait tomber, il le fait disparaître, on n'y pense plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont peur. C'est logique. Et dans Genèse 3:8, on lit « Alors, ils entendirent la voix de Yodévavé Elohim qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Yodévavé Elohim au milieu des arbres du jardin. » Vous savez, quand on perd la relation avec Yodévavé, il ne reste plus qu'Elohim. Et on a perdu la possibilité d'avoir l'intimité avec ce Dieu que nous aimons, Yodévavé Elohim, parce qu'on n'a plus l'accès à l'intimité. Comment voulez-vous être en intimité avec quelqu'un dont vous avez peur? C'est pas possible, on n'est pas en intimité. Et ce qui va se produire, c'est qu'à partir de ce moment-là, du fait qu'il introduit uniquement, Satan, là, la notion du Dieu juge, eh bien, toutes les religions qui vont naître à partir de là vont être des religions qui vont s'adresser à la création, parce qu'Elohim, c'est le créateur, et qui vont être telles qu'il va falloir essayer de faire plaisir au juge, si vous voulez, pour qu'il soit bienveillant. Alors, ben, ça va tourner à... On va adorer la lune, on va adorer le soleil, on va adorer des gens, tout des créatures, quoi. Hein. Et puis, on va adorer des idoles, et on va essayer de donner des offrandes à cet Elohim pour qu'il soit bienveillant. Il faut qu'on achète, si vous voulez, sa bienveillance. Il faut qu'on l'achète. Et donc, pour conjurer le sort, si vous voulez. Et les hommes iront jusqu'au sacrifice de leurs enfants pour conjurer le sort. Bien entendu. Et vous voyez que la plupart des religions consistent à observer des règles pour faire plaisir à cet Elohim juge. Prenez les religions et vous verrez. Alors évidemment, c'est tout le légalisme qui existe sur cette terre. Il y en a des religions légalistes, en pagaille. Si tu fais pas ci, il va t'arriver malheur. Si tu fais pas ça, etc., etc. Et on met en esclavage. Pourquoi? Parce qu'on a perdu Yodévavé. On a perdu Yodévavé en route. Et toute la question que le Père éternel va essayer de faire pendant toute la période de la Bible, c'est de renouer la relation entre Yodévavé et l'être humain. Le chesed de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça, quand on a retrouvé le chesed de Dieu et qu'on n'a pas perdu Elohim, attention, les deux, alors on a retrouvé le Père éternel. Vous comprenez ça? Ça va jusque-là? Qui a chassé l'homme du jardin d'Éden, à votre avis?
Elohim.
Eh non! C'est Yodévavé Elohim. Pourquoi? Parce que Yodévavé Elohim, et c'est un acte d'amour, ne voulait pas que l'homme puisse manger de l'arbre de vie, parce qu'alors il aurait été éternel en ayant une très mauvaise relation avec Dieu. Est-ce que vous aimeriez que des gens comme Hitler soient éternels? Eh bien, moi je vous dis, c'est un acte d'amour qu'il a fait en nous rendant mortels. Il faut comprendre ça. Hein. C'est un acte d'amour. Alors, parce que si on avait été éternel, La parole nous dit qu'on aurait été comme Dieu. Si on est comme Dieu, ben on n'a plus besoin de lui. C'est ce que les hommes essayent de faire maintenant, d'ailleurs, hein, avec l'intelligence augmentée, etc. Mais maintenant, je vais essayer de vous parler du Père du ciel. Parce que ce que je vous ai dit, c'est important. On a vu les deux attributs, très importants. Il faut absolument qu'on ait les deux. C'est un équilibre. D'accord ? Si on perd Yod et Vavé, ma foi, là, on n'a même plus l'accès. Si on n'a que Yod et Vavé tout seul, on a la grâce, mais on fait n'importe quoi. Oui, c'est très important les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Qu'est-ce que c'est qu'un père ? Il faut se poser la question. Oui. C'est très important parce que bon, quand même, quand on nous parle du Père céleste, c'est qui ? C'est quoi un Père ? Un Père, c'est celui qui donne la vie, et d'une. C'est lui qui va mettre la semence. C'est lui le Père. Bon. Deuxièmement, il va nous donner provision, c'est-à-dire qu'il doit pourvoir à notre vie. Il va nous donner protection. Il va nous donner éducation. Et il va nous donner héritage. Michel nous a beaucoup parlé de l'héritage. Elle va continuer ce soir. Et vous voyez que ça fait partie de ce que le Père donne. Bon, donc il y a quatre aspects que je répète, provision, protection, éducation, héritage. Et donc c'est à travers ces quatre aspects-là que Yod et Vavé va essayer de se faire connaître aux hommes, pour essayer de se révéler comme père. Adam et Ève ont perdu la relation avec le Père. Et quand ils ont perdu la relation avec le Père, ils ont perdu tout ça. Ils ont perdu provision, protection, éducation, héritage. Et il nous est dit qu'ils se sont trouvés tout nus. Mais évidemment, si vous perdez tout, vous êtes tout nus. Je vais même vous dire, en hébreu, le mot « nu », ça se dit arom. Arom, ça veut dire nu. C'est le même mot que rusé. Et on aurait pu traduire le serpent était le plus nu des animaux des champs. Et après la chute, on aurait pu traduire et l'homme devint rusé. Eh oui, pourquoi il devient rusé ? Ben parce qu'il a tout perdu. Il faut qu'il se débrouille maintenant. Alors, on voit dans l'histoire que Yod et Vavé, ils regardent la terre et ils voient que ça tourne mal. On arrive alors au temps de Noé. Et il dit, c'est vraiment foutu, la terre, elle est foutue. Et il dit, je vais laver la terre. Alors il lave la terre avec le déluge. Ils étaient 8 dans le bateau. À la sortie du bateau, Noé plante une vigne. Il a du raisin, il fait du vin, il se saoule. Et il se met tout nu. Son fils Cham, attention ce que je vous dis, ça n'est pas écrit comme ça dans la parole, mais c'est comme ça que c'est interprété par les juifs. Son fils Cham a sodomisé son père. C'est pour ça qu'il a été maudit. C'est-à-dire qu'il a commis les péchés qu'on faisait avant le déluge. Donc c'est un échec, vous voyez, très vite c'est un échec. Et il va falloir attendre encore. Après, vous avez la tour de Babel. Oh, catastrophe. Et de la tour de Babel, qui est-ce qui va sortir ? Abraham. Il va sortir Abraham de la tour de Babel. Et qui est-ce qui se présente à Abraham? Écoutez, Genèse 12, 1. Yod-Heh-Vav-Heh, c'est pas Elohim. Yod-Heh-Vav-Heh dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. On voit réapparaître Yod-Heh-Vav-Heh. Et on continue. Genèse 12, 7. Regardez, c'est formidable. Yod-Heh-Vav-Heh apparut à Abraham. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que Yod-Heh-Vav-Heh, le chesed, l'amour, la bonté, est apparu à Abraham. C'est-à-dire que Abraham reçoit une semence d'amour, mais d'amour pur, vous savez. Il reçoit cette semence et Abraham, il va transmettre cette semence à tous ses descendants. Et c'est pour ça que dans la descendance d'Abraham, la terre, le monde sera béni. Parce que c'est à travers cette descendance que le chesed va pouvoir revenir et que nous allons pouvoir retrouver l'intimité avec le Père. Vous voyez ce que fait là les Yod-Heh-Vav-Heh? Alors, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Malchitsédek, roi de justice, qui lui était sacrificateur de El Elyon. Sacrificateur de Elohim élevé. Et Abraham, lui, il va changer son nom et il va dire c'est Yod-Heh-Vav-Heh El Elyon. Vous voyez qu'il remet, il rétablit les choses, Abraham. C'est formidable. Et donc, la semence là de Chesed, elle est placée dans Abraham et c'est ça qui va pouvoir donner le salut du monde. Comment Moshe, donc on avance dans l'histoire, comment Moshe a-t-il pu être envoyé? Vous savez qu'à un moment donné, il voit cet arbre qui brûle. Il se détourne. Écoutez, je vous lis le verset parce que il faut vraiment aller voir dans l'hébreu pour se rendre compte. Exode 3, versets 4 à 7. Yod-Heh-Vav-Heh vit qu'il se détournait pour voir. Donc vous voyez que c'est Yod-Heh-Vav-Heh qui surveille Moshe, hein? Il est là, il surveille. Yod-Heh-Vav-Heh, il se détourne. Il arrive à l'arbre. Elohim l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et on voit le juge là. Tout de suite, attention, ne fais pas n'importe quoi, retire tes chaussures. Et puis, à la fin de sa rencontre, on voit cette parole, Yod-Heh-Vav-Heh dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est Yod-Heh-Vav-Heh, la tribu d'amour. Alors, Moshe demande, mais quel est ton nom? Mon nom, c'est Eyé Asher Eyé, en hébreu. Eyé Asher Eyé, c'est-à-dire je serai qui je serai. Et c'est l'Éternel qui se présente sous la forme Yod-Heh-Vav-Heh. Arrive la sortie d'Égypte maintenant. Il y a d'abord un sacrifice, parce qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice pour sortir d'Égypte. Mais quand Yod-Heh-Vav-Heh envoie Moïse devant le Pharaon, il dit une parole très importante. Parce que moi, je suis en train de vous expliquer, tout doucement, qui est le Père Céleste. D'accord ? Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yod et Vavé, Israël est mon fils, mon premier-né. Yod et Vavé se montre là comme un père. Vous savez que Israël, c'est le premier-né ? C'est le premier-né de Dieu. Et dans la parabole du fils prodigue, il y a le premier-né et il y a le second. Et c'est ça l'histoire du fils prodigue. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer au désert ? Ils vont sortir. Dieu va souffler, la mer va s'ouvrir, ils vont arriver dans le désert. Qu'est-ce qui se passe au désert ? Vous savez que si tout s'était passé normalement, en 11 jours de marche, ils étaient arrivés. Ça a duré 40 ans. Il les a fait tourner en rond. Pourquoi il les a fait tourner en rond ? Eh bien, parce qu'ils avaient besoin de temps pour comprendre qu'ils avaient un père. Ça ne se comprend pas en 2 minutes. Et comment il va faire ? Il les amène dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il crie. Pourquoi tu nous as emmenés là ? Qu'est-ce que fait Yod et Vavé ? Il donne de l'eau. C'est pas un père, ça ? Il n'y a pas de viande. Il crie. Hop ! Les oiseaux arrivent. Il y en a, je sais plus, 60 cm d'épaisseur, 12 oiseaux. Il y a de la viande. C'est pas un père, ça ? Mais bien sûr que c'est un père qui fait ça. Et chaque fois, le père va répondre « Provision, protection, héritage, et j'ajoute éducation. » C'est-à-dire, de temps en temps, une taloche, parce que tu as fait des bêtises, hein, et puis de temps en temps, des félicitations. C'est ça, l'éducation. Mais c'est ça, un père. Et il a fallu 40 ans. Et au désert, le fils aîné a dû apprendre à dépendre de son père céleste. Ils ont dû apprendre à dépendre de lui. Ce peuple ne pouvait pas faire par lui-même. Nous, on est allés en Jordanie, à l'endroit justement où Moshe est passé, mais je vous assure, c'est pas possible de vivre là. Il n'y a rien, tout est sec. Tout est sec. C'est pas possible. Comment voulez-vous faire vivre 3 millions de personnes là-dedans ? C'est pas possible. Enfin. Donc, comment il fait la manne tous les jours ? La manne tous les jours, c'est pas un père, ça ? Et le vendredi, il y a double portion. C'est le père qui leur apprend Shabbat. C'est pas formidable, ça ? C'est là, Yod et Vavé. Yod et Vavé. Alors, c'est au désert qu'il n'avait que des promesses, hein, le peuple. Il n'avait que des promesses. On va vous emmener dans un beau pays, etc. C'est que des promesses, tout ça. Oui, mais il y a le désert entre deux. C'est la même chose pour Yeshua. Il a dû apprendre, Hébreux 5.8, hein, Yeshua a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a obéi au Père, par les choses qu'il a souffertes. Et Israël a obéi au Père, par les choses qu'ils ont souffertes dans le désert. Mais bien sûr. Alors, on continue. Le Père, c'est mon ami. parce que il connaît toutes mes difficultés, il connaît ce qui fait de la peine, il connaît mes épreuves, il connaît vos épreuves. Je vous ai dit tout à l'heure, le Yod et Vavé, c'est celui qui vous regarde, qui vous surveille. Il connaît tout de vous, mais absolument tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme il vous connaît. C'est pourquoi, comme je sais qu'il connaît mes peines, eh bien, j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui faire plaisir à cause de ça. Et si moi, je connais les intérêts de mon père, je vais apprendre à lui faire plaisir. Quels sont ses intérêts? Vous savez, pourquoi Yod et Vavé aimait-il David? Alors on va dire, moi j'ai cherché longtemps, hein, je n'avais pas trouvé. Hein, parce que je me suis dit, bah, peut-être parce que David il s'est repenti, vous voyez, je me disais des choses comme ça. Mais c'est pas ça. C'est que si vous prenez le texte 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, on voit que David a tué un lion et a tué un ours. D'accord ? C'est-à-dire que David était capable de s'occuper des brebis qui ne lui appartenaient pas. C'était les brebis de son père. Et il était capable de risquer sa vie pour ça. Et bien c'est pour ça que David était aimé du Père céleste. Parce qu'il a dit, je vais pouvoir lui confier mes brebis. Vous voyez? On ne peut aimer le Père que si nous voyons et si nous recevons l'amour du Père. Il faut voir l'amour du Père dans notre vie. Et je suis sûr que l'Éternel pourvoit à vos besoins, que vous voyez sa main tous les jours dans votre vie. C'est comme ça qu'on découvre le Père. La nature qu'il nous a donnée, mais allez vous promener dans la nature et regardez si c'est pas un cadeau du Père. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Nous les hommes on abîme tout, mais regardez, c'est de toute beauté, c'est un cadeau du Père. Donc, si vous voulez, maintenant, on se pose la question, mais quel est mon Dieu? Est-ce que c'est Elohim, tout seul? Est-ce que c'est Yod et Vavé, tout seul? Ou est-ce que c'est les deux? Ça, c'est l'équilibre. Vous voyez? Les deux. Et si on a les deux, on a la crainte d'Elohim et le chesed de Yod et Vavé. Ça, c'est le Père. Ça, c'est le Père. Malheureusement, on n'a pas l'équilibre, nous, les chrétiens, parce qu'on a coupé le nom de Dieu en deux. Mais oui, on n'étudie pas comme étudient les Juifs, et on perd les mots. On perd les mots. Donc, c'est un équilibre. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas, c'est 4 chapitres, c'est 2 fois rien. C'est 2 fois rien. Qui est-ce qui envoie Jonas? C'est Yod et Vavé. Qui est-ce qui fait la tempête? C'est Yod et Vavé. C'est de l'amour, attention, hein. Parce qu'il est en train de le récupérer, là, Jonas. Hein. Qu'est-ce qui fait venir la baleine, enfin le gros poisson? C'est Yod et Vavé. Qu'est-ce qui fait cracher la baleine sur la plage? C'est Yod et Vavé. À quel moment apparaît Elohim dans l'histoire de Jonas? Tout à la fin. Tout à la fin. Jonas 4, verset 9. Elohim dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du rissa. Vous vous rappelez de l'histoire? Le juge arrive à la fin. Non, mais tu te moques pas un peu du monde, toi, là, Jonas. Tu te fais du souci pour le Rissa. Tu crois que c'est juste. C'est Elohim qui est là. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et Yodévavé, le Resed, dit, tu as pitié du Rissa qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit, et moi, Yodévavé, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer la droite de leur gauche. Vous voyez le récède de Dieu. C'est Elohim qui a jugé de la situation, et c'est le récède de Dieu qui, parle à son cœur. Vous voyez, c'était absolument extraordinaire. À l'époque de Jérémie, j'ai ici le texte de Jérémie, on voit, par exemple au chapitre 31 et au verset 8, il est écrit « Car je suis un père pour Israël » et Éphraïm est mon premier-né. Donc c'est bien un père. Et on voit, toujours dans Jérémie, au chapitre 3, versets 19 à 20, on voit la tristesse de Yodévavé. Pourquoi ? Parce que le peuple, à cette époque-là, n'a pas compris que Dieu était un père. Je, Yodévavé, disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je, Yodévavé, disais, tu m'appelleras mon père. Tu m'appelleras mon père. Et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous avez été infidèle, maison d'Israël, dit Yodévavé. Vous vous rendez compte, la peine de Dieu, la peine de Yodévavé. Maintenant, je voudrais vous parler de Yeshua. Yeshua n'est pas né d'une semence d'homme. Si vous lisez Matthieu 1, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc la semence vient du Saint-Esprit, de Yodévavé. Il en est de même pour nous. Vous allez dire, oui, mais moi j'ai un père terrestre. Mais oui, tout le monde a un père terrestre. Mais nous avons aussi reçu une semence de Yodévavé. Je vous lis 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et dans 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, si la semence de Dieu est en vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Exactement comme Yeshua. Yeshua est notre grand frère. En même temps, il est Yodévavé lui-même. Très compliqué à comprendre. Hein? Mais si nous devenons, on est d'abord des enfants, ensuite des fils, ensuite des adultes, etc. Eh bien, si nous devenons des fils et des filles de Yodévavé, nous devons, en grandissant, ressembler à Yeshua. C'est logique. Si on se comporte comme des enfants de Yod et Vavet, eh bien, Yod et Vavet nous promet provision, protection, héritage et éducation. Il est un père, ça n'est pas un grand-père. Je précise. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent que l'Éternel, c'est un grand-père. Voire un Père Noël. Ben ouais, on attend les cadeaux, quoi. Hein? Non, c'est un éducateur. C'est un éducateur. Et donc, à partir de ce moment-là, on est de nouveau, on a la possibilité d'être en relation avec Yod et Vavé, cet attribut d'amour. Mais je vous rappelle que si on n'est pas avec l'attribut d'amour, on n'a que Elohim. Elohim, ça fait peur. Mais si on a de nouveau rattaché l'attribut d'amour, le Chesed, on n'a plus peur. Et à ce moment-là, on lit Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez comme tout se tient? Tout se tient. Alors, l'œuvre de la croix, ça va, vous tenez le coup? Je ne suis pas trop long. L'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est produit à la croix? Et on pourrait parler longtemps sur ce qui s'est passé à la croix, tellement il y a de choses. Mais, vous savez qu'il y a des décrets qui sont dans les cieux. Elohim avait écrit un décret contre nous, à cause de la chute, à cause du péché. Et il fallait que ce décret soit déchiré. Et pour déchirer ce décret, il fallait qu'il soit déchiré sur la croix. Donc, on a dans le psaume 40 des versets extraordinaires qui parlent de Yeshua. Versets 8 à 10. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Elohim, mon juge. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Yod et Vavet, tu le sais. Et donc, Yeshua est venu. Il est venu mourir sur la croix. Et on lit dans Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » L'acte juridique. Il s'est passé quelque chose dans les cieux à ce moment-là. Un acte juridique a été déchiré. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Vous voyez que tout se tient. Mais il s'est produit une chose terrifiante pour Yeshua. Une chose absolument terrifiante. Vous savez qu'à un moment donné, il a crié sur la croix. Et je vais reprendre. Je vais lire. Eloi, Eloi, lama shabbatani. Qu'on a traduit par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais attendez, c'est pas tout à fait ça. Eloi, ça veut dire mon Elohim. Mon Elohim, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que le juge a abandonné Yeshua à la mort. Le jugement est tombé sur lui. Vous voyez? Et Yod et Vavé, Yeshua avait tellement confiance dans l'amour de Yod et Vavé qu'il lui a fait confiance pour sa résurrection. Donc, il y a effectivement une déchirure. Yeshua était séparé. Il y a une déchirure là. Mais c'est Elohi, Elohi, mon Elohim, mon juge, pourquoi m'as-tu abandonné, moi qui n'ai pas fait de péché? Ben oui, parce qu'il a pris sur lui les nôtres de péché, il est mort, mais il est mort en ayant confiance à Yod et Vavé pour sa résurrection. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire, ça c'est l'œuvre de la croix. Alors, Michel va sûrement nous parler du Sauveur. Mais vous voyez dans Ésaïe 43, verset 11, je vous le lis en français. Moi-même, donc deux fois, Yod et Vavé, sauf moi, pas de sauveur. C'est Yod et Vavé qui nous sauve. Et le mot sauveur, c'est Yeshua en hébreu. Donc, moi-même, Yod et Vavé, sauf moi, pas de Yeshua. C'est comme ça qu'on peut le lire. Anochi, Yod et Vavé, Ve'ain mi bal adai Moshiach. Moshiach. Donc, dans Jean 14, 9, Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez, Yod et Vavé. Pourquoi faut-il se sanctifier maintenant? Dans le Deutéronome, on lit que le Père, Yod et Vavé, ton Elohim, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, il t'a fait faire afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que Yod et Vavé, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est un père. C'est un père. Et dans Matthieu, au chapitre 3, à la fin du chapitre, versets 31 à 34, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, etc. De quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Michel l'a lu hier soir. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc vous voyez que le Père céleste, c'est deux noms groupés ensemble. Yod et Vavé, Elohim, on ne peut pas les séparer. Et c'est par cet attribut, Yod et Vavé, l'attribut du Chesed, qu'on peut avoir l'intimité avec le Père. Mais attention, Elohim est là, le juge et le créateur. Et c'est Elohim qui guérit. Et donc, je vais conclure. Mais après, je vais lire aussi le Notre Père, parce que le Notre Père, il est important. L'Éternel, c'est un bon Père. Et l'amour, ça se voit en acte. Véronique, elle me dit toujours, l'amour, ça se prouve. Parce que c'est vrai, il y a les baratineurs.
Mais pas seulement en acte, il y a même pas seulement en parole, mais en acte.
En acte.
Et en vérité.
Et en vérité. Alors, vous remarquerez, quand vous étudierez la parole de Dieu, vous remarquerez que c'est toujours Yod et Vavé qui prend l'initiative de l'amour. Et donc, comme nous devons lui ressembler, nous devons prendre l'initiative de l'amour. Et regardez par exemple, Matthieu 5, si tu te présentes, si tu présentes ton autel, ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Tu dois prendre l'initiative comme Dieu. Si tu veux lui ressembler, tu fais comme lui. Un père, ça bénit ses enfants. C'est pourquoi la bénédiction d'Israël nous est donnée aussi. C'est ce qu'on appelle la bénédiction des Kohanim. La bénédiction des Kohanim, je vous la lis, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous le direz. Écoutez bien, c'est que Yod et Vavé te bénissent et qu'ils te gardent. Il n'y a pas Elohim, hein? Que Yod et Vavé fassent luire ses faces sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yod et Vavé tourne ses faces vers toi et qu'il te donne le shalom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et on peut faire personne pour la maison de l'Église. Alors, je voudrais terminer en vous rappelant le Notre Père. Parce que Yeshua nous a appris le Notre Père. Notre Père, c'est les deux mots groupés. Qui est aux cieux? Les deux mots, c'est un seul nom. Que ton nom soit mis à part, sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, c'est un père, notre pain qu'il nous faut. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Vous imaginez ça? Le nom du Notre Père, c'est Elohim Yod et Vavé. Les deux noms groupés. N'en perdons pas un en route. Que Dieu vous bénisse.